Somo somo dure ati limana ofana ma.
12h30 ici à Washington DC, 17h30 en temps universel. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Bonsoir à tous. Alexandrine Tron-Ognon avec vous. À la une ce 22 janvier 2025, les États de l'AES annoncent le déploiement prochain d'une force conjointe de 5000 soldats pour lutter contre le terrorisme dans les trois pays qui constituent l'Alliance. Plus d'un million de personnes fuient la guerre au Soudan pour le Soudan du Sud voisin. Une statistique frappante et qui donne à réfléchir selon l'ONU. Nous nous intéresserons au Forum économique mondial qui se poursuit actuellement à Davos. L'inquiétude des migrants le long de la frontière mexicaine avec les États-Unis à la suite de déportations massives promises par le président américain Donald Trump. Nous verrons cela dans les magazines. Et ne manquez pas la Minute Éco et le sport. Une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, trois pays sahéliens gouvernés par des militaires, va voir le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes. C'est une annonce du ministre nigérien de la Défense en direct de la télévision nationale. Les précisions de John Lyndon.
Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, a déclaré le général Salifou Modi, précisant que cette force unifiée, qui est pratiquement prête, a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a-t-il ajouté lors d'une interview à la télévision publique nigérienne, expliquant qu'il s'agit d'une question de semaines avant qu'elle ne soit opérationnelle. Ces trois pays où les régimes civils ont été renversés dans des putschs entre 2020 et 2023 ont formé l'an dernier une confédération, l'Alliance des États du Sahel. Les trois pays de l'AES forment un vaste territoire de 2,8 millions de kilomètres carrés. Depuis une décennie, ils font face aux attaques récurrentes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou encore à l'État islamique.
Le groupe rebelle M23 s'est emparé de la ville de Minova dans l'est de la République démocratique du Congo, principale voie d'approvisionnement de la capitale provinciale Goma. L'armée congolaise a reconnu une percée du groupe et a fait état de combats sur tous les fronts. Cette nouvelle conquête du groupe armé est la dernière d'une série d'avancées significatives réalisées au cours des dernières semaines. L'Union africaine se dit consternée après la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Selon un communiqué publié ce mercredi, l'organisation espère que Trump reconsidérera sa décision. Cette décision inquiète sur le continent actuellement confronté à plusieurs épidémies comme le Mpox et le virus de Marburg. Le décret signé par le président américain qu'il justifie par l'écart des contributions financières américaines et chinoises a fait réagir à travers le monde, l'Union européenne se disant inquiète, la Chine affirmant que le rôle de l'OMS doit être renforcé, pas affaibli. Plus d'un million de personnes ont fui le Soudan déchiré par la guerre pour se réfugier au Soudan du Sud voisin, selon les Nations Unies, un seuil frappant qui témoigne de l'ampleur de la crise humanitaire dans la région. Eric Manirakiza.
Au cours des 21 derniers mois, 770 000 personnes ont traversé le poste frontière de Djoda, tandis que des dizaines de milliers d'autres individus sont arrivés au Soudan du Sud par d'autres entrées, portant le total à plus d'un million de personnes, selon des données de l'ONU publiées ce mardi. La plupart d'entre elles sont des ressortissants sud-soudanais qui avaient quitté leur pays pour échapper à la guerre civile de 2013, a précisé le HCR dans un communiqué. Malgré la générosité exceptionnelle du peuple du Soudan du Sud qui continue d'accueillir les déplacés et partage ses ressources limitées, il ne peut assumer seul cette énorme responsabilité, a souligné Sahana Abdallah Omer, représentante adjointe du HCR au Soudan du Sud. L'ONU appelle à davantage de soutien et avertit que les ressources du Soudan du Sud, telles que les soins de santé, l'eau et les abris, sont dangereusement surexploitées. La semaine dernière, 16 Soudanais ont été tués après que des manifestations anti-soudanais ont dégénéré en pillage et en violence, selon la police.
Et parlant du Soudan, 600 détenus arrêtés en marge des manifestations au Soudan du Sud se sont évadés. La police indique avoir attrapé certains d'entre eux et recherche toujours les prisonniers restants. Les détenus avaient été arrêtés la semaine dernière à Djouba pour des pillages et des violences anti-soudanais. 16 Soudanais ont été tués en marge de ces manifestations. La Centrafrique et la Russie signent un accord de partenariat politique pour solidifier leurs liens. Au terme de cet accord signé lundi, les deux parties prévoient d'organiser régulièrement des consultations bilatérales pour échanger des informations et partager leur expérience en matière de développement des parties.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a suspendu les employés des programmes de diversité en les mettant en congé forcé. Par ailleurs, il a demandé la destitution de plus d'un millier de responsables de l'ancienne administration démocrate. Nathalie Barge.
Une note du Bureau fédéral de la gestion du personnel précise que tous les employés des bureaux DEIA, des programmes de diversité, sont placés en congé administratif payé avec effet immédiat. Par ailleurs, le président Donald Trump a déclaré avoir enjoint à son équipe d'identifier activement et de destituer plus de 1000 personnes nommées par la précédente administration. Des personnes qui ne sont pas alignées avec notre vision pour rendre sa grandeur à l'Amérique, a-t-il précisé sur Truth Social. Il a dit que 4 personnes ont déjà été limogées, dont l'ancien chef d'état-major des armées Mark Milley, démis d'une fonction de conseil, et l'amiral Linda Fagan, première femme à diriger les gardes-côtes américains. La nouvelle administration a aussi retiré la protection policière dont jouissait John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, sous le premier mandat de M. Trump. Le président a défendu sa décision de gracier 1500 personnes ou de commuer leur peine pour certaines, condamnées pour leur irruption au Capitole le 6 janvier 2021. Leur peine était ridicule et excessive, a-t-il estimé. Enfin, M. Trump a annoncé hier un projet d'intelligence artificielle baptisé Stargate, promettant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures technologiques. Il a assuré que ce programme va créer plus de 100 000 emplois aux États-Unis. Lundi, il a annulé un décret pris par Joe Biden sur la sécurité en matière d'intelligence artificielle, un geste interprété comme une approche réglementaire plus modérée.
Le Mexique construit des abris temporaires dans la ville de Ciudad Juárez pour se préparer à un éventuel afflux de Mexicains expulsés dans le cadre des déportations massives promises par le président américain Donald Trump. Le gouvernement prévoit également de mettre en place une flotte de bus pour transporter les Mexicains des centres d'accueil vers leur ville d'origine. La 55e réunion annuelle du Forum économique mondial s'est ouverte officiellement hier à Davos, en Suisse. Une centaine de dirigeants sont réunis pour cette rencontre, organisée cette année sous le thème « La collaboration à l'ère intelligente ». Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Lors de l'un des discours d'ouverture à la réunion annuelle du Forum économique mondial, la présidente de la Commission européenne a affiché sa volonté de coopérer avec de nouveaux alliés, tendant notamment la main à la Chine. Le vice-premier ministre chinois Ding Xuxiang, qui lui a succédé à la tribune, n'a pas directement répondu à Ursula von der Leyen, mais dans son discours, il a défendu le multilatéralisme, appelant à résoudre les disputes et les différends par le dialogue. Le protectionnisme ne mène nulle part et il n'y a pas de vainqueur dans les guerres commerciales, a-t-il affirmé. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à défendre le libre-échange, fondement de prospérité, contre le principe de l'isolement commercial. Le nouveau président américain, Donald Trump, doit lui intervenir jeudi en visioconférence. De manière générale, les actions militantes se multiplient en marge de l'édition 2025 du Forum de Davos. Des militants de Greenpeace ont réussi mardi à installer dans le hall principal du centre des congrès une bannière dont le slogan appelait à taxer les super-riches, financer un avenir juste et vert. Lundi, des militants d'Oxfam ont lancé de la peinture verte sur la façade d'un pavillon installé par Amazon, appelant à abandonner les subventions aux énergies fossiles.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington DC. Alexandrine Rolognon à ce micro. À présent, la Minute Éco de ce mercredi 22 janvier. Présentation Claire Morin-Jubourg.
Au Sénégal, l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, a annoncé le gel des importations d'oignons dès le 25 janvier pour favoriser la production nationale et pour soutenir les producteurs locaux. En 2023, l'ARM estimait les besoins du Sénégal en oignons à 380 000 tonnes par an pour une production de 400 000 tonnes. En 2024, plus de 162 000 tonnes d'oignons ont été importées des Pays-Bas, précise le site d'information Sénégo. La hausse des dépenses publiques consacrées à la garde d'enfants et à la petite enfance peut créer des millions de nouveaux emplois au Rwanda, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Sénégal d'ici 2030, dont 65% profiteraient à des femmes, selon un rapport du Center for Global Development. L'Organisation internationale du travail recommande d'investir au moins 1% du PIB dans les politiques publiques, dans l'éducation préscolaire des enfants pour une autonomisation économique des femmes. La Banque mondiale a salué la performance remarquable du Burkina Faso avec un taux de décaissement annuel des projets financiers qui avoisine 30%, soit 3 milliards de dollars. La banque a souligné l'engagement des autorités et des responsables sectoriels pour garantir que les projets financés soient à la fois structurants et impactants pour la population.
Merci Claire Morin-Jubourg. La suite de ce segment avec les sports, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Suite ce soir des matchs de poule en Ligue des Champions.
Oui, malheur ou vaincu du choc PSG-Manchester City, deux cadors en danger. Ce duel au sommet se joue au Parc des Princes, habitué au dernier carré qu'ils ont atteint trois fois chacun ces cinq dernières saisons. Les Parisiens, comme les Citizens, sont en grande difficulté en Europe cet hiver. Le PSG, 7 points, est 25e, juste en dessous de la 24e place, qui octroie le dernier billet pour les barrages d'accession en 8e de finale. City, 22e, avec 8 points, n'est guère mieux loti. Les joueurs de Luis Enrique, intouchable leader du championnat de France, restent sur 8 victoires de rang. Ceux de Pep Guardiola remontent en Première Ligue avec 3 victoires en 4 matchs après un énorme passage à vide. 9 défaites en 14 matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions.
Comme City et le PSG, le Real Madrid est très mal parti.
Les Merengues sont 20e avec 9 points, mais Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre Las Palmas en Liga le week-end, revient vers la grande forme et l'adversaire du soir, le RB Salzbourg, 32e avec 3 points, est déjà presque hors course. Tout Madrid attend à présent de lui qu'il confirme ce retour au premier plan et cette prise de pouvoir sur la scène européenne. Après des rendez-vous manqués face à l'AC Milan et à Liverpool, le club autrichien de Salzbourg, 34e du classement de la phase de Ligue des Champions, nouveau format, avec 6 défaites en 6 journées, semble être la proie idéale pour affirmer un peu plus ce statut.
Carlo Ancelotti balaie les rumeurs d'un départ en fin de saison.
Sous contrat jusqu'en 2026, l'entraîneur du Real Madrid a balayé les rumeurs d'un départ en fin de saison, assurant qu'il comptait rester au club au moins 4 ans de plus. « Je vais être très clair, la date de mon départ de ce club, je ne la déciderai jamais de ma vie. Ce jour arrivera, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi d'en décider, cela peut arriver demain, dans quelques matchs, dans un an, dans 5 ans. » Florentino Pérez, le président du club, va continuer 4 ans de plus et mon objectif, c'est de rester 4 ans de plus à ses côtés. Comme ça, on fera un super pot de départ ensemble, a déclaré le technicien italien dans un large sourire, bien sûr. Une réponse claire aux rumeurs circulant dans la presse espagnole ce week-end, disant qu'il avait choisi de s'en aller à la fin de la saison et que le géant madrilène préparait déjà sa succession en visant son ex-milieu de terrain, Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen.
Wilfried Tsingo permet à l'AS Monaco de se qualifier pour la phase à élimination directe de cette Ligue des Champions.
Monaco a assuré sa qualification hier soir en battant Aston Villa 1-0 grâce à un but de l'international ivoirien lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de Ligue. Cette victoire permet aux Monégasques de rejoindre leurs adversaires du soir au classement avec 13 points. Elle permet surtout de sceller la qualification au moins pour les barrages d'accession aux 8e de finale et de se déplacer sans grande pression la semaine prochaine à Milan pour y défier l'Inter, champion d'Italie en titre, lors de l'ultime journée de la Ligue des Champions.
Merci à vous pour ces informations, Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Voici les magazines de ce mercredi 22 janvier. De nombreuses personnes fuient vers Goma alors que le M23 s'est emparé lundi de Minova, une cité de 65 000 habitants dans l'est de la RDC et une plateforme commerciale située sur les rives du lac Kivu. Nathalie Barge relate des témoignages de personnes déplacées en Zolo, en banlieue de Goma.
Alliance Toumeni fait partie des déplacés qui ont parcouru près de 50 km pour atteindre Nzulo, à 5 km au nord-ouest de la capitale du Nord Kivu, quasiment encerclée par les combats.
Je viens de fuir à cause de la présence du M23. Hier, nous l'avons vu venir de Rukara. Ils sont descendus à Bitonga jusqu'à Kashenda et ont pris Minova. C'est pourquoi j'ai fui.
Depuis lundi matin, des bateaux transportent de nombreuses personnes qui fuient Minova pour tenter de trouver refuge à Goma, sur l'autre rive du lac Kivu. Cheria Sebunyenzi, déplacée de guerre.
Chez moi, c'est à Karuba. Le M23 nous a poussés à fuir jusqu'à Minova. Nous commencions déjà à nous installer là-bas, dans le camp de déplacés. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore obligé de fuir.
Selon Ishara Kaziwa, chargé de la protection du camp de Lushagala, les déplacés arrivent en masse. Dans l'est du pays, plus de 230 000 personnes ont dû quitter leur foyer depuis début janvier à cause des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. Salama Bizimana, déplacée de guerre.
Depuis hier, lorsque nous avons fui, nous avons constaté que nous ne pourrions pas atteindre Kitembo. Nous avons passé la nuit à Mishibwe. Il y avait des crépitements de balles et il y a eu des blessés. Ce matin, nous avons repris le chemin vers Kitembo. De là, nous avons pris une pirogue pour atteindre Nzulo, où nous sommes maintenant.
Elia Mwendakwabo affirme que son village accueille tout le monde, mais que la présence des déplacés crée une psychose au sein de la population.
Nzulo était comme un carrefour, mais depuis l'arrivée des déplacés, les choses ont changé. Nous, habitants de Nzulo, nous savons plus quoi faire. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac. Mais avec la prise de Minova, il sera probablement fermé, ce qui nous rend très inquiets.
Tout à fait, nous avons gagné à était dans ma chambre. Tout le monde a été fait en Bahari. Il a été fait en Bahari.
Selon le CICR, en charge de la chirurgie de guerre à l'hôpital de Goma, plus de 200 blessés, dont des enfants, ont été accueillis ces trois dernières semaines. Les affrontements se déroulent autour de la capitale du Nord Kivu, qui était tombée brièvement aux mains du M23 en 2012.
En pleurs et sous le choc, des migrants vénézuéliens et honduriens voient leur rêve anéanti avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. À peine investi, le nouveau président américain a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique et a ordonné à l'armée américaine d'en assurer la surveillance. Les migrants qui attendent au Mexique leur rendez-vous pour demander l'asile via l'application du gouvernement américain connue sous le nom de CBP One ont vu leur rendez-vous annulé. Un reportage que je reprends pour vous. Alors qu'ils actualisaient l'application, une alerte est apparue. Les rendez-vous existants programmés par l'intermédiaire de CBP One ne sont plus valables. Nidia Montenegro a fui la violence et la pauvreté au Venezuela. Elle a survécu à un enlèvement alors qu'elle se dirigeait vers le nord du Mexique et a atteint la ville frontalière de Tijuana dimanche 19 janvier pour un rendez-vous avec un demandeur d'asile américain qui devait enfin lui permettre de retrouver son fils qui vit à New York. Ce rendez-vous est désormais annulé.
J'ai attendu 4 mois à Tapachula. Nous sommes restés dans l'incertitude. Nous ne savons pas quoi faire. Vraiment, la joie que nous avons eue s'arrête ici. On ne sait pas ce qu'on va faire. On est dans l'incertitude.
Madame Montenegro fait partie des milliers de migrants qui ont vu leur espoir d'entrer légalement aux États-Unis s'envoler soudainement. Autour d'elle, d'autres migrants pleuraient en essayant à plusieurs reprises de charger l'application, le désespoir grandissant. Certains ont reçu des courriels annulant leur rendez-vous, d'autres ont reçu l'alerte et certains n'ont tout simplement pas pu ouvrir l'application. Des scènes similaires ont eu lieu dans plusieurs villes frontalières mexicaines. Denia Alvaro est une migrante hondurienne.
Je pense que de nombreuses personnes ont attendu longtemps pour le rendez-vous CBP1 et je pense que c'est une erreur d'avoir annulé les rendez-vous. Je comprends qu'ils allaient annuler l'application, mais je pense que les rendez-vous n'auraient pas dû être annulés. Il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment besoin et qui ont voyagé à cause de problèmes délicats. La plupart d'entre nous ont dû faire face à des situations difficiles lorsqu'ils ont quitté le pays.
Les autorités frontalières américaines ont confirmé qu'elles avaient fermé l'application et annulé les rendez-vous existants. Au 7 janvier 2025, quelques 280 000 personnes s'étaient connectées quotidiennement à l'application pour obtenir un rendez-vous. Selon une estimation du gouvernement américain, environ 11 millions d'immigrés se trouvaient illégalement aux États-Unis ou bénéficiaient d'un statut temporaire au début de l'année 2022. Un chiffre que certains analystes situent aujourd'hui entre 13 et 14 millions. Des millions d'utilisateurs américains de TikTok se tournent vers le nouveau président Donald Trump. Ce dernier a donné 75 jours à la société mère chinoise de l'application ByteDance pour conclure un accord avec un acheteur américain. Un reportage de Matt Diebel, repris par Lionel Gaïman.
L'un des premiers actes du président Donald Trump après sa prestation de serment lundi a été la signature d'un décret accordant aux propriétaires chinois de l'application de médias sociaux TikTok un délai supplémentaire de 75 jours pour trouver un acheteur américain, faute de quoi il serait interdit dans le pays. Le président Donald Trump.
Je pense que j'ai une affection pour TikTok que je n'avais pas à l'origine, mais je suis allé sur TikTok et j'ai gagné les jeunes avec une marge de 36%.
Il s'agit du dernier rebondissement pour ByteDance, le propriétaire de la plateforme basée à Pékin, et ses quelques 170 millions d'utilisateurs américains. Le site a brièvement fermé au cours du week-end après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé la législation exigeant que la filiale américaine de TikTok devienne une société américaine pour éviter une interdiction pour des raisons de sécurité nationale. Mais les choses ont changé après que M. Trump a commencé à s'exprimer en faveur d'un sursis à TikTok. Le PDG de TikTok, Xu Chew, a assisté à l'investiture de M. Trump, l'a remercié dans une vidéo publiée vendredi.
Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir le soutien d'un président qui comprend vraiment notre plateforme. Un président qui a utilisé TikTok pour exprimer ses propres pensées et perspectives.
Mais certains experts juridiques affirment que la décision de Trump pourrait ne pas protéger les entreprises comme Oracle, qui continuent d'héberger TikTok parce que la loi promulguée par le Congrès est toujours en vigueur. Alan Rosenstein est professeur à la faculté de droit de l'Université du Minnesota.
Il est tout à fait possible, je soupçonne les actionnaires d'Oracle, certains avocats spécialisés dans les valeurs mobilières, d'y penser en ce moment même. Il est tout à fait possible qu'au cours des dernières 48 heures, Oracle se soit exposé à une responsabilité potentielle de centaines de milliards de dollars et que Trump ne puisse rien faire pour soustraire à l'entreprise de cette responsabilité.
Lors de son dernier mandat, Trump avait cherché à interdire TikTok en raison d'allégations selon lesquelles le service pourrait partager des données d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. En réponse aux questions des journalistes, le président a proposé une nouvelle solution, que le gouvernement américain soit copropriétaire de TikTok.
Je pourrais imaginer un accord où les États-Unis obtiendraient 50% de TikTok, le contrôleraient un peu ou beaucoup, cela dépendrait d'eux.
Bien que le Congrès ait initialement donné à TikTok 270 jours pour trouver un acheteur américain, il n'y a eu aucune indication publique d'une vente en cours. Adam Kovacovic est PDG de la Chambre du Progrès, une association de l'industrie technologique.
Le fait qu'ils ne l'aient pas autorisé, je pense que c'est un signe que le gouvernement chinois a de réels intérêts de sécurité nationale dans le maintien de l'application telle qu'elle est, ce qui devrait vraiment nous préoccuper et souligne vraiment l'élan initial qui a poussé le Congrès à adopter ce projet de loi en premier lieu.
L'horloge de TikTok a été remise à zéro pour 75 jours supplémentaires, mais malgré le soutien de Trump, l'avenir de l'entreprise est encore très incertain.
L'arrivée de Donald Trump au pouvoir suscite inquiétudes et interrogations en Afrique. Dans les rues de Conakry, en Guinée, ce sont les mesures du nouveau président américain en matière de migration et de coopération économique avec le continent africain qui fait réagir. Certains habitants se sont exprimés au micro de Mamadou Saadio Baldé.
C'est sûr que dans la vie, il faut persévérer. En tout cas, il nous l'a prouvé. Il ne s'est jamais découragé. Malgré tous les obstacles qui ont pu se présenter, il n'a jamais baissé les bras. Il y a cru jusqu'au bout et il a atteint son objectif. Donc pour lui, c'est vraiment une réussite. Par contre, les Américains ne sont pas prêts. Pour moi, je pense qu'ils ne sont pas prêts à élire une femme présidente. Je le pensais déjà lorsque c'était Donald Trump face à Hillary Clinton. Aussi, les femmes, c'est pas facile quand elles occupent ces postes. On est moins tolérant avec une femme qu'un homme à ces postes de responsabilité. La moindre erreur est grandement médiatisée et le lynchage est beaucoup plus fort que lorsque c'est un homme. Je me rappelle du cas de Pauline Marois, qui avait été la première femme première ministre du Québec. Tout le monde sait comment ça s'était terminé pour elle. Et donc, c'est pas facile.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum est consacré au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis après une absence de 4 ans. L'âge d'or de l'Amérique commence, a-t-il proclamé lors de son discours d'investiture lundi. Il a notamment promis des droits de douane et des taxes aux pays étrangers et décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. À quoi s'attendre du second mandat de Donald Trump? Quelle place pour l'Afrique dans la nouvelle politique étrangère américaine? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. Since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you.
De cette édition Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique avec Alexandrine Frolognon à ce micro, Michel Joseph à la réalisation. Merci à la rédaction et à l'équipe de production et merci à vous surtout pour votre fidélité à ce programme. L'actualité continue sur VOA Afrique, voafrique.com et n'oubliez pas nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur VOA Afrique.